Ouais, ça marche. Voilà, écoutez, bienvenue. On est très heureux de vous avoir. Voilà, on est aussi nombreux d'ailleurs pour cette soirée. Il faut quelques mots d'explication pour cette soirée. Ça fait longtemps, dès le début de l'année de la miséricorde, que notre conseil avait pensé que c'était important de faire une soirée sur la vigilance de la pension culte, en voyant qu'elle était tellement adaptée à l'année de la miséricorde. On n'avait même pas réalisé d'ailleurs que les historiens de notre propre nom, que en fait cette indulgence avait été accordée, aurait été accordée par le pape Honorius III en l'année 1216. Et donc si vous faites un petit calcul, on est au 8e centenaire de cette année maintenant. C'est le 8e centenaire de l'année de miséricorde. Et je peux vous dire que nous, on vient d'Assise il n'y a pas longtemps, et en Italie, ils ont fait un grand, grand événement pour le 8e centenaire de la vigilance de la pension culte, qui étant en même temps l'année de la miséricorde. Alors ils en ont fait visite à des saints frères. L'évêque d'Assise, d'ailleurs, a fait une aide pastorale à cette occasion. Et je vous lis le début parce que c'est intéressant. La Providence nous accompagne toujours et nous surprend souvent. C'est pas mal. Qui aurait pu prévoir que pour le 8e centenaire du pardon d'Assise, nous aurions d'abord un pape du nom de François, et comment deviner que cet anniversaire de la pension culte tomberait dans l'année dédiée à la miséricorde? Là, ce sont des circonstances qui suscitent de la stupeur et qu'il faut entrevoir un dessein de Dieu. Après, je continuerai là-dessus, mais pour dire que donc on avait prévu cette soirée, puis en fait, il y a eu après un projet peut-être plus vaste qui avait été mis en route. Je suppose que la famille franciscaine dans son entier pouvait peut-être faire un événement. Puis bon, voilà, alors donc on s'est reculé dans l'affaire, on a dit on ne fera pas de soirée pour la bibliothèque pour cette occasion, on va laisser la place à cet événement. Et puis à la rentrée de cette année, on sait qu'on a constaté qu'il n'y avait pas eu cet événement. Donc on a repris notre liberté et on s'est dit, on se fait une soirée pour notre plaisir à nous, ici, voilà, pour parler, parce qu'en plus il fallait le faire assez vite avant que l'année de la miséricorde se termine quand même. Voilà. Alors, c'est pour ceci que nous exprimons toute notre reconnaissance à Pierre Moratini, qui, au pied levé, a bien voulu, en tant qu'historien, mais peut-être qu'il a été obligé de le faire trop vite, parce qu'il a quand même beaucoup d'autres choses à faire, des enseignements, de la bibliothèque, des recherches, etc. Bon, il a fait au pied levé. Alors, pour moi, je crois que ça suffira largement, mais pour lui, comme spécialiste, peut-être qu'il sera peut-être un peu, voilà, un peu gêné aux entournures, de nous faire cette soirée. Voilà. Donc, il y aura son exposé. J'avais prévu, mais je ne crois pas qu'on le fera, j'avais prévu quelques photos. Pour vous dire aussi, quand je vous dis, nous qui allons souvent à Assise, puisqu'on a une fille qui est arrivée là-bas, eh bien, quand on dit que vous y allez le 2 août, mais même pas l'année de la miséricorde, le 2 août de toutes les années, eh bien, c'est une grande fête, le 2 août de la pension culte, le 2 août de chaque année. Ils appellent ça une grande marche. Pendant une semaine, il y a toutes des équipes avec beaucoup de jeunes, d'ailleurs, et des. Mené par des frères franciscains en Burme, avec toujours le chapeau, enfin c'est italien. Et puis pendant une semaine, ils font un pèlerinage et ils arrivent tous ensemble le 2 août à la portion à Notre-Dame des Anges. Et c'est spectaculaire. C'est un peu la kermesse pour Colette, mais en même temps c'est beau. Puis ils vont donc faire ils traversent la chapelle, la petite chapelle pour avoir leur indulgence. Alors, je termine maintenant mon exposé, je donne tout de suite la parole à Pierre, parce que, voilà, on a pas mal d'incertitudes, il vous le dira sûrement, sur l'indulgence elle-même, est-ce qu'elle a été accordée, etc. Alors, lui, l'évêque Monseigneur Domenico, il va le citer. C'est à mon prédécesseur Théobald, qu'il est revenu de confirmer en 1310, à l'encontre de voix critiques, l'indulgence de la pension culte que François avait obtenue du pape Honorius III. Alors il dit, je termine là-dessus, peut-être est-ce à moi qu'il revient dans le contexte culturel actuel d'en expliquer le sens et l'actualité. Donc il le confirme que ça se fait. Voilà. Alors, j'ai présenté la séance. Merci.
Bien donc, bonsoir, attendez, est-ce que ça marche? Ça marche ou pas? C'est bon? Vous m'entendez ou pas? C'est bien? Voilà. Non, peut-être un peu plus, peut-être. C'est bon comme ça? Oui, très bien. Très bien. Merci d'être venu à l'invitation donc, des amis de la bibliothèque. Il y a parmi vous des gens qui seraient mille fois plus capables de donner cette conférence. Voir si, de tous les côtés, il y a des gens qui pourraient le faire beaucoup mieux que moi. N'empêche qu'il se trouve qu'on m'a demandé de le faire et que j'ai obéi. Voilà. Et donc, voilà, mais c'est très. Je crois que c'est une chose, c'est pas mal, comme ça. Bon, je ne suis pas médiéviste. Donc moi, ce que je vous propose peut-être simplement ce soir, c'est de faire un qu'on appelle un état de la question. Tout ce que je vais pouvoir vous dire, c'est un peu de seconde main, c'est des choses que j'ai pu lire. Il y a eu je crois qu'elle vient de fermer ses portes, une très belle exposition donc justement à la portion CUL, et Jean-François nous a ramené le très beau catalogue que vous pourrez feuilleter tout à l'heure. Donc avec tout ça, avec un certain nombre d'outils de la bibliothèque, avec aussi un texte passionnant que m'a fait découvrir le frère Luc Mathieu, dont je signale qu'entre parenthèses que c'est la fête aujourd'hui, et voilà, on peut tous voilà, on est très heureux que Luc, le frère Luc, soit là. Voilà, donc un espèce d'état de la question que je vais diviser en trois parties. Tout simplement, d'abord, qu'est-ce qu'une indulgence ? Qu'est-ce que l'indulgence de la portion CUL ? Une petite définition. Ensuite, peut-être la partie la plus compliquée, son histoire, les origines de l'indulgence, son histoire. Et puis, troisième partie, sa diffusion et son actualité. Son actualité dans l'art, dans un certain nombre d'événements éventuellement actuels. Alors, pour définir une indulgence, l'indulgence est particulièrement celle de la portion CUL, le frère Luc m'a fait découvrir un petit texte de Joseph Ratzinger, dont j'ignorais totalement l'existence. C'est l'époque où Joseph Ratzinger était encore archevêque de Munich, et c'est paru en français aux éditions Parole et Silence sous le titre Joseph Ratzinger, la gloire de Dieu aujourd'hui. Et c'est une série de petits textes dont un s'intitule La portion CUL, comprendre la notion d'indulgence. Et je trouve que c'est intéressant c'est assez beau finalement comme texte, car il y a une espèce de mélange à la fois de considérations théologiques très fines, comme sait le faire le cardinal Ratzinger, et de témoignages personnels, parce que Joseph Ratzinger témoigne de son enfance et de ce qui pouvait se passer dans son village le 2 août. C'est intéressant rien que pour ça. Et puis il témoigne aussi de son passage à Assise. Alors, en substance, que dit Joseph Ratzinger ? Il dit à l'époque de François, des éléments essentiels de la discipline pénitentielle de la vieille Église, de l'Église du premier millénaire, sont toujours en usage. À savoir que le pardon des péchés n'est pas accordé par la seule absolution. Le pardon des péchés doit s'accompagner, il doit y avoir l'absolution, mais il faut aussi que cette absolution soit accompagnée d'un changement existentiel. Ça vient de la discipline finalement qu'on imposait aussi après le baptême, après que les catéchumènes aient été baptisés. Lorsqu'ils péchaient, et en particulier fortement, eh bien, on leur imposait une vraie pénitence qui comportait un certain nombre d'actes importants, de démarches. Et à l'époque de François, la forme principale de cette pénitence prescrite était soit un grand pèlerinage, en général un grand pèlerinage à Rome ou en Terre Sainte, ou à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc c'est ce qu'on appelle à cette époque-là une pénitence. Et vous voyez bien tout de suite la différence avec ce qui peut se passer aujourd'hui, avec la discipline d'aujourd'hui, où finalement la pénitence a été très intériorisée, très spiritualisée, au risque peut-être de disparaître, de ne pas être un élément important justement dans le sacrement, en tout cas de ne pas suivre vraiment de façon importante le sacrement de pénitence, le sacrement de la réconciliation. Alors ces grands pèlerinages, ces grandes démarches pénitentielles que on demandait à l'époque de François, on pouvait demander à l'époque de François, sont évidemment impossibles pour beaucoup, pour la majorité peut-être même, des contemporains de François, qui sont souvent de pauvres gens et qui ne peuvent pas aller dans ces lieux importants. Et François a bien conscience de cela, et là je crois qu'on rentre vraiment dans la psychologie de François d'Assise, qui considère qu'on n'ouvre pas suffisamment les portes du pardon. Et là, tout de suite, je pense qu'il y a un lien avec notre pape François actuel. Il y a cette même démarche d'ouvrir les portes du pardon, d'être davantage dans la miséricorde. Alors, je continue toujours, hein. C'est pas de moi, ça, c'est du Ratzinger. François, selon une tradition remontant au XIIIe siècle, a obtenu la possibilité pour ceux qui viendraient le 2 août à la Portioncule, dans cette petite chapelle que François a restaurée de ses mains, il a obtenu la possibilité pour ces gens-là, qui viendraient donc le 2 août à la Portioncule, qui se seraient confessés, d'être en quelque sorte dispensés de cette démarche qui dépassait les forces de beaucoup. Voilà, c'est ça ce que c'est l'indulgence. C'est évidemment pas la seule forme d'indulgence, il y en aura beaucoup dans l'histoire de l'Église, mais en voilà une importante, c'est-à-dire si je me confesse et si je vais le 2 août prier dans cette petite chapelle de la Portioncule, je suis débarrassé des peines liées au péché, de ce qui dans mon péché a détruit l'ordre ou bouleversé l'ordre. Alors évidemment, cette a priori au départ, cette indulgence, elle doit être acquise pour celui qui fait la démarche, et peu à peu, elle va être acquise, et Ratzinger dit mais c'est tout à fait compréhensible, les gens qui viennent disent mais est-ce que cette grande chance que j'ai moi, je ne pourrais pas l'avoir pour d'autres, on va peu à peu étendre cela aux âmes du purgatoire, à des gens qui sont morts, en s'appuyant sur un trésor, un trésor de mérites qui ont été accumulés par le Christ et par les saints. Et donc vous voyez que cette démarche, elle s'appuie sur une notion très très forte de la communion des saints. C'est parce qu'il y a la communion des saints, ce qui est de l'ordre spirituel finalement ne m'appartient pas en propre, nous est commun et peut circuler de l'un à l'autre. C'est à la fois donc lié à la communion des saints et puis aussi à notre foi en l'Église. C'est évidemment que c'est par la médiation de l'Église que je peux obtenir cette indulgence, non seulement donc pour moi, mais pour aussi des fidèles défunts. Joseph Ratzinger dit évidemment aussi qu'on ne peut pas évoquer les indulgences aujourd'hui sans oublier les abus qui ont été commis par certains chrétiens au cours de l'histoire, et je pense que c'est encore plus important de le dire aujourd'hui, à la veille d'un autre anniversaire, qui va commencer le 31 octobre prochain, puisque vous savez que le pape François va aller à Lund, en Suède. Il va aller à la rencontre de la Fédération luthérienne mondiale, et donc c'est le début de la grande année 1510, la grande célébration, de commémoration de l'année 1517, et vous savez que 1517 commence par la révolte de Luther contre des abus liés à la pratique des indulgences, et en particulier avec ces 95 thèses qui, selon la tradition encore, parce que ça c'est aujourd'hui contesté, il aurait affiché sur les portes de l'église paroissiale de Wittenberg. Entre parenthèses, je vous signale un petit article qui vient de paraître dans le dernier numéro de la revue Études, par un théologien jésuite qui s'appelle Bernard Sesboué, qui revient justement à l'occasion de cet anniversaire sur la notion d'indulgence. C'est très intéressant de voir comment un jésuite peut en parler, un jésuite d'aujourd'hui, et en gros il dit qu'il ne remet pas en cause la théologie de l'indulgence, il dit seulement qu'après Luther, on ne peut plus utiliser ce mot « indulgence ». C'est un mot trop connoté, je dirais, par la souffrance des luthériens, en gros, qui chaque fois qu'on a un jubilé, on a encore ce mot indulgence qui arrive, et qui propose, c'est une idée comme une autre, qui propose d'utiliser, de trouver d'autres mots. Il parle justement de miséricorde, de bienveillance. Bon, ça c'est à la fin de son article, mais j'ai trouvé intéressant qu'il ne nie pas la théologie de l'indulgence, mais qu'il considère qu'il faille peut-être changer le vocabulaire. Alors voilà pour une première partie, la définition de l'indulgence, en sachant que, on y reviendra certainement plus tard, en sachant que peu à peu, elle a été étendue non seulement aux vivants, mais aux morts, et puis elle a été étendue aussi géographiquement, hein, à toutes les églises franciscaines, à toutes les églises de tous les ordres franciscains, les capucins, enfin, tout le monde s'y est mis, et y compris certaines églises paroissiales qui en faisaient la demande, etc. Ce qui explique pourquoi, justement, Joseph Ratzinger a vécu ça dans son enfance. Hein. Je vous lis juste le petit passage de ce qu'il a vécu, parce que Joseph Ratzinger n'était pas, lui, tertiaire franciscain, par exemple. Hein. Mais c'est intéressant de voir comment quelqu'un qui n'est pas tertiaire, dans l'enfance de Joseph Ratzinger, c'est-à-dire dans les années 20 ou 30, hein, 20 peut-être, hein, 30, hein, a pu vivre ce 2 août. Je me souviens que dans ma jeunesse, ce jour-là était pour moi un jour d'intense recueillement, permettant de mieux recevoir les sacrements, un jour de prière. Sur la place de l'église régnait un silence étrange et solennel. Les gens ne cessaient d'entrer et de sortir de l'église. On sentait que le christianisme est grâce et que celle-ci se trouve dans la prière. Loin de toutes les théories de l'indulgence, il s'agissait en fait d'un jour de foi, d'un jour de silencieuse confiance, mais surtout d'un jour de prière essentiellement destiné aux défunts. Voilà ce qu'est le 2 août pour Joseph Ratzinger dans sa jeunesse. Voilà, je passe maintenant à mon deuxième point sur, finalement, qui est le plus compliqué, sur lequel il y a plus débat, hein, finalement, hein, sur l'histoire de l'indulgence de la portion Q. Donc le don de l'indulgence de la portion Q est censé se dérouler en juillet 1216, hein, vous l'a dit déjà tout à l'heure, il y a 8 siècles, alors que le pape Honorius III se trouve à Pérouse. Et de fait, de ce point de vue-là, on sait que Honorius III était à Pérouse en juillet 1216. Le problème, c'est là la grosse difficulté, c'est que il n'y a aucun témoignage concernant cette indulgence dans ce qu'on appelle les sources primitives. Vous pouvez ouvrir les deux tomes du totum Jacques Dallarin, vous ne verrez pas, je crois, il n'y a pas une seule allusion à l'indulgence de la portion Q. C'est intéressant, je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, hein, et de reconnaître que ça pose problème. Hein. Alors après, évidemment, on va donner des tas d'explications pour que, justement, c'est pu être vraiment donné en 1216, mais qu'on ne le sache pas avant longtemps. Hein, en particulier le fait que François ne... Il y a eu tout de suite une forte hostilité, justement, et il y a eu tout le temps, finalement, une certaine hostilité à cette indulgence, en particulier parce qu'on se demandait si ça ne ferait pas tort au lieu saint. Hein, et que François, pour pas que ça s'ébruite trop et qu'il y ait trop de gens qui n'aillent plus au lieu saint et qui n'apportent plus d'aumône au lieu saint, n'en aurait pas parlé. Enfin, c'est le type d'explication qui a été donnée pour qu'on n'en parle pas. Alors, en revanche, je trouve intéressant, il ne faut jamais l'oublier, c'est que dans les sources qu'on trouve, c'est quand même que François accordait une importance extrême à la petite chapelle de la portion Q. Ça, je trouve qu'il ne faut jamais l'oublier, et ça, c'est vraiment, nous est dit par diverses sources dans le totum. Je vais simplement vous citer un texte de ce qu'on appelle aujourd'hui la compilation d'Assises, hein, qui a été rédigé par certains premiers frères, premiers compagnons de François, hein, sans doute Léon y a participé, mais là je m'engage pas, je sais qu'il y a beaucoup plus spécialistes que moi. Je cite ce que dit la compilation d'Assises. Nous qui avons été avec le bienheureux François, vous savez, il commence toujours par cette formule-là, nous qui avons été avec lui, nous rendons témoignage qu'il affirmait avec conviction de cette église Sainte Marie des Anges de la Portioncule. Alors là, il y a une longue incise. À cause des nombreuses prérogatives que le Seigneur manifestait là, et parce qu'en ce lieu il lui fut révélé, il a fermé l'incise. Donc, cette église Sainte Marie des Anges de la Portioncule, contre toutes les autres églises de ce monde que la bienheureuse Vierge chérit. Elle chérissait particulièrement cette église. Bon, c'est une traduction qui est très lourde, mais qui est volontairement très lourde, parce que vous savez que, je dirais, l'idéologie aujourd'hui de la traduction, enfin, la volonté de traduire, c'est de traduire au plus près du texte, quitte à le rendre un peu lourd. On aurait pu lire peut-être la traduction Damien Voreux, ça aurait peut-être passé mieux, ou celle de Théophile Desbonnets. Mais qu'est-ce qu'on retient là-dedans ? C'est que, lié à cette église, à cette petite chapelle de la portion Q, des prérogatives que le Seigneur manifeste là. Alors, de quelle sorte de prérogatives on parle, c'est intéressant quand même, je veux dire, des prérogatives. Voilà. Et qu'ensuite, que parmi toutes les églises que chérit Marie, c'est celle qu'elle chérit particulièrement cette église, cette petite chapelle. Donc, François a la plus grande révérence et dévotion envers cette petite chapelle, mère et tête des pauvres frères mineurs. Alors maintenant, revenons à cette histoire de l'indulgence. Parce que, évidemment, là, je vous ai cité la compilation d'Assise, mais il n'y a pas le mot, il n'y a pas l'histoire qu'on connaît et que je vous raconterai tout à l'heure, et qu'on apprend beaucoup plus tard. On a plusieurs témoignages, à partir des années 1270 à peu près, concernant l'existence de l'indulgence. Alors, pour plus de détails, je vous renvoie à ce catalogue là que nous a ramené Jean-François, qui est très bien fait de ce point de vue-là, avec beaucoup de très belles illustrations, de très belles reproductions de manuscrits. C'est le catalogue de l'exposition qui vient de fermer ses portes à la portion CUL et qui liste systématiquement tous ces témoignages. Parce que bon, il y en a certains qui sont là, mais qui ont été contestés par la suite, etc. Donc, je dirais, pour un état de la question extrêmement fin, je vous renvoie à ce livre-là. Mais je vous en cite un de ces témoignages, parce que je trouve qu'il est intéressant. C'est un laïc qui s'appelle Pietro Zalfani. Et Pietro Zalfani, dans les années 1200, justement, 1270-1280, il dit avoir assisté à la proclamation de l'indulgence, donc il a dit avoir été présent en 1216. Alors, la proclamation de l'indulgence qui s'est faite en présence de François et de sept évêques d'Ombrie. Et vous savez, ça a donné lieu à l'iconographie que vous avez sur votre petite affichette, là, qui est très belle, et qui est une petite partie du retable qui se trouve à l'intérieur de la petite chapelle de la portion CUL. Quand vous êtes à Notre-Dame-des-Anges, vous avez deux iconographies très intéressantes. Vous avez celle-là et vous en avez une autre dans la chapelle des fleurs qui est très très belle parce que ça montre en particulier comment les frères construisent à l'extérieur de la portion CUL. C'est tout à fait passionnant à regarder en détail. Ce sont des fresques qui sont en même temps des témoignages historiques très intéressants. Et donc là, vous pouvez compter, je crois que sur l'iconographie, vous comptez bien vos sept évêques d'Ombrie. Et ce Pietro Zalfani nous dit: le saint avait un papier en main et disait, cette expression qui va faire qu'on peut tous retenir et qu'on aime tous entendre, et qui disait: je veux vous envoyer tous au paradis. Je vous annonce une indulgence que j'ai obtenue de la bouche du souverain pontife. Et vous tous qui êtes venus aujourd'hui, et tous ceux qui viendront annuellement en ce jour, avec un cœur bien disposé et bien contrit, vous gagnerez une indulgence de tous vos péchés. Donc ça, c'est ce que rapporte ce Pietro Zalfani. Et cette expression « je veux vous envoyer tous au paradis », on ne la connaît que par lui. Ce qu'on peut dire, on en pourra en discuter tout à l'heure, parce que j'espère qu'on pourra parler, mais ce qu'on peut dire, c'est que ça correspond quand même assez à ce qu'on sait de François d'Assise. Ça nous semble être un peu dans la psychologie de François. « Je veux vous envoyer tous au paradis. » Le paradis pour tous. Parce que vous savez que c'est la mode des trucs pour tous, et bien là, c'est le paradis pour tous. Alors, il y a d'autres témoignages que je ne vais pas citer. En particulier, vous avez des témoignages de frères. De frères qui vous disent: on a connu un frère qui était le neveu du frère Massé. Et le frère Massé qui avait, je vais en reparler tout à l'heure, c'est lui qui a accompagné François d'Assise, qui a accompagné François d'Assise à voir le pape à Pérouse. Donc, comme ça se faisait souvent à cette époque-là, un frère, il avait son neveu, parmi ses neveux, ils étaient nombreux, donc il y avait au moins un frère, des frères connaissent le neveu de frère Massé. Vous voyez, c'est ce genre de témoignage qu'on peut collecter. Alors, ce qu'il faut reconnaître également, c'est que assez rapidement, cette indulgence va avoir des détracteurs. Vous avez des gens qui ne sont pas d'accord, qui contestent pour des tas de raisons l'indulgence de la portion CUL. Alors, comme vous avez des détracteurs, fatalement, ça vous donne d'autres vagues de témoignages, puisque vous avez des gens qui vont essayer de contrer les détracteurs. Et parmi les gens qui vont contrer les détracteurs, l'un des plus beaux exemples, et que je trouve les plus intéressants, c'est le théologien franciscain Pierre de Jean Olivy, hein, ou Aulieu, hein, qui est très, très célèbre, qui a vécu à la fin du XIIIe siècle, qui connaît en France, je pense à Sylvain Piron, enfin, il y a des très grands spécialistes de Olivy, et il se trouve que Pierre de Jean Olivy a véritablement traité à la manière d'une question scolastique, il a vraiment traité la question que je vais vous lire là. Je vais la lire en latin, mais c'est très facile à comprendre. Vous allez voir, on va le traduire ensemble, c'est très très facile à comprendre. La question suivante, c'est « Quae eritur ?» Hein, on cherche à savoir. Voilà. « Anne, est-ce que ?» Voilà. « Sit conveniens ?» Bon, est-ce qu'il convient, hein ?« Credere ?» De croire, hein. « Indulgentiam omnium peccatorum esse datam in ecclesia sancta Mariae de Angelis. » De croire que l'indulgence de tous les péchés a été donnée dans l'église de Sainte Marie des Anges. Et il y a encore une petite phrase qui suit. « In qua procreatus est ordo fratrum minorum », c'est très facile à comprendre, ça vous rappelle simplement que c'est dans ce lieu qu'a été procréé, qu'est né l'ordre des frères mineurs. Voilà. Donc voilà. Est-ce qu'on peut croire ça? Il va essayer de prendre, il va passer en revue les arguments, et à chaque argument, il va, c'est la technique la grande technique médiévale, il va répondre à chacun des arguments. Alors quels sont les arguments? Je vais passer rapidement, hein. Donc, premier argument, elle nuirait trop à l'indulgence de Terre Sainte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle serait trop facile à gagner, c'est trop facile, hein. Et sa facilité assurerait une incitation au péché. Elle pousserait au relâchement, jetterait le discrédit sur les autres indulgences. Qu'il serait peu probable et invraisemblable qu'une telle indulgence ait été accordée à une si petite église. Ah, parce que c'est vrai, hein. Imaginez ce qu'est la petite... on pourrait en mettre combien dans cette salle, hein, de la portion cul, hein. C'est tout petit. Que le pape aurait dû accorder celle-ci avec plus de réflexion. Qu'une grâce aussi extraordinaire ne peut être accordée sans un motif grave et évident. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce pape? Qu'elle n'a pas été publiée avec des garanties nécessaires. Et en supposant que le pape ait voulu cette indulgence, il ne lui convenait pas qu'il le fît, et même il ne pouvait pas la faire. Voilà. Et à chaque fois, Olivy va répondre à tous ces arguments. Hein. Je passe là-dessus, et allez voir, là encore, il y a des détails dans le... et je crois que le texte a été édité, et je crois même que Luc, vous l'avez commencé à traduire, cette question-là. Ça serait intéressant d'en connaître le détail. Alors, donc, des détracteurs. Parmi ces détracteurs, on sait qu'il y avait des dominicains, mais il n'y avait pas que des dominicains. Il semble bien que derrière ces détracteurs, alors ça c'est moins drôle pour nous, hein, il y a aussi d'autres frères mineurs. Hein. Les frères mineurs conventuels de la basilique où est enterré François. Hein, qui est, vous le savez, il y a eu une espèce de concurrence, bon, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais il y a eu en tout cas pendant longtemps une concurrence entre les deux grands lieux franciscains, enfin, les grands lieux de la mémoire franciscaine d'Assise, le lieu où est le corps et le lieu où est la chapelle, où est le centre de l'ordre. Hein, ces deux lieux se font concurrence. Hein. Et par exemple, on apprend que dans les années 1280, à Pise, l'évêque considère que maintenant il y a une équivalence entre les grands pèlerinages, et il met dans les grands pèlerinages Assise, mais il ne la met pas pour obtenir l'indulgence à la porcincule, il la met pour obtenir une autre indulgence qui elle est beaucoup plus courte, hein, qui n'est pas une indulgence plénière, qui est une indulgence d'une quarantaine de jours je crois, et qu'on obtient à la basilique Saint-François. Voilà. Alors de là à dire que les frères mineurs, que les franciscains, et peu à peu, encore qu'à ce moment-là, c'était 1280, en principe, c'était les mêmes frères, je veux dire. Hein. Mais vous savez bien que dès ce moment-là, il y avait des tensions, et sans doute que dès ce moment-là, les frères qui habitaient le Sacrocomento n'étaient peut-être pas exactement les mêmes que ceux qui étaient à la portion cul. Hein. C'était correspondait sans doute à ce qu'on appelle des sensibilités différentes. Voilà, alors on a d'autres témoignages hein, qui c'est intéressant. Par exemple, dans la légende de Marguerite de Cortone, on parle de l'indulgence de la portion cul. Dans les instructions d'Angèle de Foligno, on parle de l'indulgence. Alors tout ça, ce sont des textes qui datent soit de l'extrême fin du XIIIe siècle, soit du tout début du XIVe. Un que je trouve très beau, que j'aurais pu vous amener, mais j'ai déjà amené pas mal de bouquins, parce qu'on a des incunables en bas qui le concernent. Je vous signale que Ange Clareno, qui lui aussi est une très grande figure de théologien franciscain de la fin du XIIIe siècle, début du XIVe, hein, qui a écrit son Arbor Vitae à l'Alverne, hein, au tout début du XIVe siècle, un grand livre de théologie franciscaine, eh bien, au tout début, dans le prologue de son livre, eh bien, il évoque un événement de son enfance, enfin de son adolescence. Il a 14 ans. Hein. Il a 14 ans et il est le 2 août à Sainte-Marie-des-Anges. Il parle bien l'indulgence et il dit même qu'il a couché juxta l'Ecclésiam. Il a couché, alors je ne sais pas très bien où il a couché, mais il a trouvé un moyen de dormir tout près, ça je comprends très bien, moi si je pouvais le faire, je le ferais, dormir tout près le mur. Hein, dont on se dit que c'est le mur sans doute qui a été restauré par François. Sans doute qu'aujourd'hui c'est plus possible de faire ça, et c'est dommage, mais à l'époque d'Ange Clareno, on pouvait sans doute coucher, se mettre contre le mur et dormir contre le mur. Alors, voilà, donc un certain nombre de... évidemment, tout ce que je dis là, les spécialistes pourraient encore affiner et nous donner davantage de témoignages. Alors maintenant, arrive quelque chose de très important, et Jean-François, tu y as fait allusion tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le testament de l'évêque d'Assise Théobald, hein, qui date de 1310. Alors, en gros, Théobald, c'est un évêque qui est un frère mineur d'ailleurs, bon, c'est pas innocent hein, ça. C'est un frère mineur, c'est un évêque d'Assise, hein. Tous les évêques d'Assise ne sont pas des frères mineurs, mais d'ailleurs celui actuel n'est pas frère mineur, et il défend pourtant l'indulgence, mais bon, celui en 1310, Théobald, est frère mineur. Alors Théobald se dit la chose suivante, il y a trop de discussions d'un côté ou de l'autre, je vais essayer de rassembler toute la documentation, et puis je vais en faire un texte. Et c'est là qu'on a le fameux récit que je vais peut-être vous lire tout simplement, parce que je crois qu'il faut l'entendre une fois. Je le tire d'un article qui a été publié par René de Nantes, hein, si je ne m'abuse, hein, qui était un capucin, et qui publiait déjà dans une excellente revue que je vous conseille, qui s'appelle « Études franciscaines ». Voilà. Et déjà en 1908. Alors voilà, là, Théobald nous donne le récit de ce qui s'est passé donc en 1216. Une nuit, que le bienheureux François était en prière dans l'église de Sainte-Marie de la Portioncule, le Seigneur lui ordonna, dans une révélation, de se rendre auprès du pape Honorius, qui était alors à Pérouse, et de lui demander une indulgence pour la même église de Sainte-Marie de la Portioncule, réparée par ses soins. Dès le matin, le saint patriarche appela frère Massé de Marignano, son compagnon, qui était auprès de lui, et allant trouver Honorius III, il lui dit « Très saint père, il y a peu de temps, j'ai réparé une église en l'honneur de la bienheureuse Vierge Marie. Je supplie maintenant votre sainteté d'y attacher les indulgences, sans exiger les offrandes ordinaires. » Le pape répondit que cela ne devait pas se faire de la sorte, car celui qui désire les indulgences doit les mériter par les œuvres de miséricorde. Mais dis-moi, ajouta-t-il, pour combien d'années et quelles indulgences veux-tu que je te concède ? François reprit, très saint père, qu'il plaise à votre sainteté de me donner non des années, mais des âmes. Et le Seigneur pape répartit, que veux-tu dire là, des âmes ? Saint François répondit, très saint père, s'il plaît à votre sainteté, je voudrais que tous ceux qui entreront dans cette église, contrits, confessés et, comme il le faut, absous par le prêtre, soient délivrés au ciel et sur la terre des fautes commises et des peines encourues depuis le jour de leur baptême jusqu'à leur entrée dans cette église. Le Seigneur pape répondit, François, tu demandes beaucoup. et la Sainte Église n'a pas coutume de concéder une telle indulgence. Saint François dit alors, « Seigneur, ce que je vous prie de m'accorder, je ne le demande pas en mon nom, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ qui m'a envoyé. » Pas de culot, hein. Le Seigneur Pape consentit alors sans délai et répéta jusqu'à 3 fois, « Il me plaît que tu aies cette indulgence. » Mais les cardinaux présents se prirent à dire, « Seigneur, faites attention, qu'en concédant à cet homme une telle indulgence, vous détruisez l'indulgence d'outre-mer, c'est-à-dire vers les lieux saints, hein, vous détruisez l'indulgence d'outre-mer, et l'indulgence des apôtres Pierre et Paul sera réduite à rien. » Le Seigneur Pape répondit, « Elle est maintenant concédée et il n'est pas convenable que nous annulions ce qui est fait, mais nous y mettrons une restriction en la fixant à 1 jour naturel seulement. » Il appela donc François et lui dit, « Voici que nous concédons à quiconque viendra et entrera dans la dite Église, confessé et contrit, l'absolution de la peine et de la culpe, et nous voulons que cette concession soit valable chaque année, à perpétuité, seulement pendant 1 jour naturel, depuis les premières vêpres, la nuit comprise, jusqu'aux vêpres du jour suivant. Alors l'homme de Dieu, frère François, inclinant la tête, sortit du palais. Le Seigneur Pape, voyant qu'il s'en allait, le rappelant, lui dit, « Homme simple, où vas-tu? Quel témoignage emportes-tu de cette indulgence ?» Et le bienheureux François répondit, « Votre parole me suffit. Si c'est l'œuvre de Dieu, c'est son affaire de la rendre manifeste. Je n'en veux pas d'autre certificat. Que la bienheureuse Vierge en soit la charte, que le Christ en soit le notaire et que les anges en soient les témoins. » Quittant ensuite Pérouse et retournant à Notre-Dame-des-Anges, il se reposa dans une léproserie située sur la route appelée Del Colle, de la colline, et il s'y endormit. À son réveil, il se mit en prière, puis appela son compagnon et lui dit, et lui adressa ces mots, « Frère Massé, je te le dis de la part de Dieu, cette indulgence qui vient de me concéder le souverain pontife a été ratifiée dans le ciel. Et frère Marinus, neveu du dit frère Massé, rapporte ce qu'il a souvent entendu raconter par son oncle. » Vous voyez, voilà, ça c'est le Théobald dit, donne une de ses sources, hein, c'est frère Marinus. Le susdit frère Marinus s'est endormi dans le Seigneur, plein de jours et de sainteté, vers l'année du Seigneur 1307. Donc il venait de mourir, hein, Marinus. Hein. Donc on voit, Théobald rapporte un certain nombre de... Voilà. Alors c'est un texte qui mériterait une étude très très fine, qui sans doute d'ailleurs correspond à différentes étapes, et en particulier quelque chose qu'on va très très souvent reprocher, quel est le grand argument aussi qu'on va donner pour contester l'indulgence de la portion culte, c'est de dire, mais il n'y a pas de texte, hein, il n'y a pas de bulle, il n'y a rien du tout. Voilà. Et donc, là-dedans, par avance, on répond à cette argumentation, puisque c'est le pape lui-même qui lui dit, mais alors, simplé, là, tu pars comme ça, sans texte. Et il y a cette très belle formule de François qui donne cette explication. Alors, oui... Également, comme je vous dis, ça correspond sans doute à plusieurs états de l'indulgence qui tenant en compte aussi des reproches, des détracteurs, de tout ce qu'ont pu dire et avancer les cardinaux. Et il semble bien qu'au départ, François désirait une indulgence qui soit beaucoup plus longue dans le temps. Hein, et c'est que peu à peu qu'elle a été réduite à un seul jour, hein, et un jour comme on l'a compté au Moyen-Âge, c'est-à-dire entre les vêpres de la veille et les vêpres du soir même, hein, entre les vêpres du premier donc au soir et jusqu'aux vêpres du 2. Alors cette indulgence, il va y avoir d'autres textes, hein, qui vont paraître. Il y a aussi une diffusion géographique. Et là, je rentre dans mon troisième point qui va peu à peu s'opérer. Hein. Ce sont peu à peu toutes les églises franciscaines. À chaque fois que vous allez avoir, en gros, une réforme franciscaine. Voilà, finalement, dans les processus de réforme franciscaine, finalement, les frères, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent à ce que leur François, quand ils représentent François, ils puissent être habillés avec l'habit de leur réforme. Hein. C'est ce que demandent les capucins, c'est ce que demandent les récollets. Alors vous allez avoir le Gréco ou des peintres qui vont les peindre comme ils veulent. Hein. Et parmi les demandes aussi, alors deuxième demande, c'est qu'ils puissent avoir des tertiaires. Hein, voilà, ça, puisqu'ils puissent diriger des tertiaires. C'est aussi quelque chose de très important. Et puis troisième demande, hein, alors je ne vous dis pas que c'est forcément dans cet ordre-là, mais ça fait partie des demandes toujours des réformes, ben c'est justement de pouvoir bénéficier dans leur chapelle, dans leurs églises, de l'indulgence, de la portion culte. Je vous cite un tout petit témoignage que j'ai repéré dans une période qui m'est davantage familière. Là. C'est un dévot qui écrit son journal de bord, hein, son livre de raison, comme on dit, hein, en 1620 à Langres. Or, à Langres, il se trouve que l'église des Capucins est sous le patronage de Notre-Dame des Anges. Hein. Mais il écrit « Le 2 août 1620, il s'appelle Africain, c'est son prénom, Africain Senot, voilà. Donc, il est en train d'écrire son journal. Voilà. Se souvint soudain en écrivant que c'était la fête de Notre-Dame des Anges, hein, patronne de l'église des Capucins. Alors, sa plume se fit prière fervente et se met tout d'un coup à écrire une belle poésie. Enfin, il reprend qu'elle soit une poésie à Marie, une prière à Marie dans son livre de raison, parce qu'il s'est aperçu que ce jour-là, on était le 2 août. Et que le 2 août, ce n'est pas tout à fait comme les autres jours. Voilà. Donc, développement des églises. Hein. Et je pense, on reparlera tout à l'heure d'une église Notre-Dame des Anges, on ira au fin fond de la Bretagne, là, parler du devenir de Notre-Dame des Anges de la Bervraque, on en parlera tout à l'heure, mais je pense que la dédicace à Notre-Dame des Anges, c'est à gagner en particulier en popularité grâce à cause de cette indulgence. Hein. N'oubliez pas que Los Angeles, hein, a été fondé un 2 août, hein, et donc c'est pour ça que les frères qui ont fondé, qui ont trouvé un petit village, hein, au bord d'une rivière, ont appelé la rivière des Anges, et le petit village, Notre-Dame des Anges, hein, qui est devenu Los Angeles. Hein, c'est ça, là, cette mégapole aujourd'hui. Eh bien, elle tient son origine. Et là, je vous signale que la cathédrale de Notre-Dame, la cathédrale de Los Angeles, est toujours dédiée à Notre-Dame des Anges également. Donc, développement de ce titre donné aux églises franciscaines, développement aussi au niveau de l'iconographie. Hein. Parmi les tableaux qui sont les plus représentés, et dans tous les cycles franciscains racontant l'histoire de François d'Assise, peut-être pas au XIIIe siècle d'ailleurs, hein, mais plus tard, c'est vrai que chez Giotto, on ne trouve évidemment pas l'indulgence de la portion culte. En revanche, dans tous les cycles de représentant l'histoire de François au XVIe, XVIIe siècle, vous avez ce qu'on appelle le miracle de la portion culte, avec en particulier cette question des roses qui apparaissent au moment où François se prosterne devant l'autel de la portion culte, où lui apparaît à la fois Marie et son fils Jésus. Il y a tout un dialogue, hein, qui s'opère entre Marie et son fils. Hein. Et vous vous rappelez qu'on a plusieurs fois dans cet auditoire parlé de frère Luc, hein, le frère, le peintre récollet. Et bien dans le cycle de peinture de frère Luc, vous avez une superbe... vous pouvez vous passer si vous voulez, vous le regarderez tout à l'heure. Hein, vous avez une superbe... indulgence de la portion culte. Hein. Il y a beaucoup comme ça de reproductions. Il y a aussi beaucoup de petits livres, hein, qui vont défendre. J'en ai apporté quelques-uns des livres qui sont en bas dans la bibliothèque. Hein. Je prends un exemple. Écrit par un capucin, voyez, en 1714. Ce capucin s'appelle Benoît de Toul. Hein, c'est un historien. Hein, qui a beaucoup compté pour l'histoire, en particulier des ordres franciscains en Lorraine. Il a écrit une apologie, hein, donc vous voyez déjà, il faut toujours défendre, hein, une apologie de l'histoire de l'indulgence de la portion culte, et c'est paru à Toul en 1714. Alors, toujours, pratiquement dans ce genre de livre, quand vous les ouvrez, c'est toujours les mêmes arguments qui reviennent, hein. On vous parle de Théobald, etc. C'est tout le temps un peu les mêmes discours. Je prends un autre exemple. J'ai descendu peut-être la vie de Saint François, la plus sérieuse, écrite en français, avant Sabatier, hein, avant le XIXe siècle. Hein. C'est celle écrite, par un récollet, qui s'appelle Candide Chalippe, qui a vécu à la fin du XVIIe siècle. et dont la vie de saint François a été constamment rééditée au XVIIe, au XVIIIe et aussi au XIXe siècle. C'est des choses qui passent la Révolution française. Eh bien, Candide Chalippe, ça a même été réédité en petits volumes, enfin des tas de formats différents. Eh bien, Candide Chalippe, il fait toute la vie de saint François, et puis après, il consacre deux appendices très importants à l'histoire des stigmates et l'histoire de l'indulgence de la porcincule. Vous voyez ? Comme s'il se disait, ben, il y a vraiment deux points importants qu'il s'agit de bien étayer, bien défendre. Voilà. Et cette production, je dirais, elle se poursuit, y compris au 19e et au début du 20e siècle, hein, et encore aujourd'hui. Hein, mais je veux dire, j'ai descendu aussi, vous le regarderez peut-être tout à l'heure, ça, c'est ce qu'on appelle des mélanges. C'est-à-dire, ce sont des tout petits fascicules qui ont été des espèces de brochures, et plein de petites brochures. Eh bien, cet ouvrage, ce recueil de mélanges-là, est entièrement consacré à défendre, à expliquer la porcincule, pas forcément défendre, mais vous voyez, je vois, petit traité sur l'indulgence de la porcincule, ça paraît à Tulle en 1885, notice sur l'indulgence, sur l'insigne indulgence de la porcincule, ça paraît à Avignon, certainement au 19e siècle, indulgence de la porcincule, ou le pardon de saint François, ça paraît à Périgueux en 1862, voilà. La porcincule, son sanctuaire, sa célèbre indulgence, avec des prières des saints de l'ordre de saint François pour 30 visites par le père Désiré, frère mineur. Ça paraît, ça, là encore, à la fin du 19e siècle. Il y a toute une production très importante de petits fascicules, et vous en avez encore aujourd'hui. Jean-François en tient, ça fait partie de ces petites choses qui expliquent, hein, toujours, hein, on le fera voir tout à l'heure, qui expliquent et qu'on a facilement à Assise, qui sont peut-être moins développées chez nous, mais qui existent beaucoup. Autre point encore, je vous parlais des procès. Alors ce qui se passe, tu y as déjà fait allusion tout à l'heure, ce qui se passe le 2 août à Assise même. Alors, manifestement, on a des preuves que, très rapidement, il y a des foules qui se sont rassemblées, qui sont venues prier et demander cette indulgence au 2 août. Là, j'ai sous les yeux un ouvrage qui est destiné aux Annonciades. Les Annonciades, c'est un ordre de femmes, hein, un ordre marial franciscain qui existe toujours, qui est vivant, et pour lequel un franciscain anonyme, hein, j'aurais passé des années et des années à essayer de trouver qui est ce frère PB. Il s'appelle FPB. Personne n'a jamais trouvé qui était ce FPB, qui est un cordelier de France parisienne du XVIIe siècle. Hein, on sait qu'il a été gardien à Chalon-sur-Marne au milieu du XVIIe siècle. Enfin, bref, on le connaît, mais on ne connaît pas son nom. Eh bien, ce frère FPB, il a écrit un ouvrage qui s'intitule « Indulgence concédée par les souverains pontifes » à l'ordre et aux religieuses de la Bienheureuse Vierge Marie, dites vulgairement les Annonciades des dix vertus. Et cet ouvrage-là, dont on a une, vous savez, ce qu'on appelle une réimpression anastatique, hein, c'est la vieille édition qu'on a polycopiée, passe en revue uniquement des indulgences. Ce n'est qu'une série d'indulgences. Mais ce qui est bien, c'est que dedans, par exemple, vous avez un calendrier franciscain du milieu du XVIIe siècle, vous avez plein de choses. Et en particulier, vous avez un chapitre que je vais vous lire, qui n'est pas très long, qui s'intitule « Les cérémonies et solennités qui s'observent tous les ans pour gagner l'indulgence de Notre-Dame des Anges. » Alors là, à Assise. Qu'est-ce qui se passe à Assise ? Donc manifestement, là aussi, soit il est allé, le frère, soit il a recueilli de la documentation. Le nombre des personnes, donc ça c'est milieu du XVIIe siècle, hein. Le nombre des personnes qui viennent de toutes parts gagner l'indulgence de Notre-Dame des Anges, le 2 août, est si grand que déjà quelque temps devant la fête, donc un peu avant la fête, une grande multitude de personnes y abordent pour se confesser et se mettre en si bon état qu'ils soient bien disposés à gagner le pardon. Donc, plein de gens viennent se confesser. Et pour les mieux y animer et leur représenter la valeur de ces richesses, les religieux du dit couvent, 3 jours auparavant, font de belles et diverses prédications. Et d'autant que l'assistance du peuple qui y aborde est prodigieuse, le pape, n'y pouvant être en personne, donne le gouvernement et disposition de cette solennité à un évêque, lequel premièrement ordonne et nomme pour pénitencier les religieux du couvent de la ville d'Assise, avec plein pouvoir d'absoudre les pénitents dans tous les cas. Voilà, je passe sur ce petit passage-là. Alors maintenant, après, qu'est-ce qui se passe le premier jour août. Le premier jour d'août étant arrivé, fête de Saint-Pierre-aux-Liens, donc on est la veille là, le midi étant sonné, les religieux du dit convent de Notre-Dame-des-Anges, qui sont de l'observance et se trouvent par communes années à cette solennité, 500, donc à certaines époques, ils sont 500 frères, les frères directement de Notre-Dame-des-Anges, pour ouvrir le jubilé, commencent leur procession. Donc il y a déjà une première procession la veille. Pour aller au couvent Saint-François, qui est dedans la dite ville, après lesquels marchent les pères conventuels, qui sont ce jour-là environ 200. Ceux-ci sont suivis des pères capucins, quasi toujours en nombre de 100. Donc vous avez 400 frères mineurs, 400 observants, vous avez 200 conventuels, et vous avez 100 capucins. Il y a des capucins, n'oublions pas. Voilà. Et donc, ce cortège-là fait la procession, et c'est une procession très œcuménique, puisqu'elle part de Notre-Dame-des-Anges, et elle va au Sacro Covento. Elle va donc en haut de la ville. Alors, voilà, après les conventuels, après les capucins, et quasi toujours en nombre de 100, donc, et puis du peuple qui vient de toutes parts. Et en cet ordre marche la procession par un chemin pavé depuis peu d'années, par la libéralité d'un gentilhomme, à cause de l'abondance de boue qui incommodait étrangement les pèlerins. Hein, évidemment, vous savez que ça monte, hein, il faut aller vers le haut de la ville, donc ça a été pavé récemment. La procession, alors vous allez voir comment ça fonctionne, parce qu'on ne peut pas tous se rassembler là-bas. Hein. La procession ne se peut aucunement arrêter en ce couvent de la ville. On ne peut pas s'arrêter en haut, pardon, pour y faire grande dévotion, mais pour gagner du temps, elle ne fait que passer derrière le grand autel sous lequel repose le corps du glorieux Saint-François. Alors n'oubliez pas qu'à cette époque-là n'existe pas la crypte. Hein, on n'a pas redécouvert, comme on dit, le corps de François. Mais les gens ont bien la conviction que François est enterré là et qu'on fait le tour. Hein, on fait le tour, sans doute, il passe le long où il y a les stalles, hein, et puis, ou peut-être à l'extérieur. Hein, et donc, c'est une procession tournante. On ne s'arrête pas. Hein. Alors, devant lequel chacun fait une génuflexion, hein, devant le corps du glorieux Saint-François, comme prenant sa bénédiction et reconnaissant que c'est par son entremise que la miséricordieuse main de Dieu a élargi le bénéfice qu'ils vont recevoir. De là, ils s'en retournent en même ordre au dit couvent de Notre-Dame-des-Anges, chantant cette antienne, haec ex preclarum. Il y a quelque chose après que je n'arrive pas à lire. La procession étant arrivée près l'église du dit couvent, on trouve les portes fermées à dessein, pour lesquelles faire ouvrir, le dit évêque fait de remarquables cérémonies et use de longues prières urgentes à la divine clémence, afin qu'il lui plaise avoir compassion de tant d'âmes qui sont là, attendant qu'il lui plaise ouvrir son trésor et élargir ses glaces. Donc vous voyez, il y a tout un procédé presque théâtral qui fait que lorsqu'on redescend du couvent Saint-François, enfin du Sacro Convento, eh bien les portes sont fermées, donc il faut frapper, on dit des prières, et ce n'est qu'au bout d'un certain temps que tout ça va bien se terminer et s'ouvrir. Voilà, ouvrir ton trésor et élargir ses grâces et à tous ceux qui lui demandent pardon et crient miséricorde. Voilà. À la fin desquelles prières réitérées par trois fois, lesdites portes s'ouvrent solennellement. Hein, c'est exactement comme de fait les portes d'ouverture, la procédure le rituel d'ouverture des portes d'un jubilé, hein, par personne à ceux destinés. Et tout aussitôt, les chantres commencent le tédéum avec telle emphase qu'il fait tressaillir les entrailles à tout dévot chrétien qui y assiste. Voilà. Alors chacun entre pour gagner le pardon, mais la presse, le monde, la foule, y est si grande qu'on ne peut s'y arrêter, mais on est contraint de faire sa dévotion seulement en passant depuis la grande porte de l'église jusqu'à celle du cloître par où il faut sortir. Hein, là encore, les gens ne peuvent pas approcher de la chapelle, hein, et ils font... il contourne. Alors je ne sais pas exactement d'ailleurs si c'est exactement la grande basilique baroque. Il faudrait qu'on regarde si cette date de 1650, si elle est déjà construite, c'est possible qu'elle soit déjà construite.
Elle était construite, mais elle a été reconstruite après les tremblements de terre.
Mais elle était déjà en grande partie construite. Donc vous voyez, il y a cette espèce de grand, le grand écrin d'ailleurs Ratzinger en parle. Il dit il faut passer l'écrin pour aboutir au joyau, enfin, qui est la petite chapelle. Et il dit d'une certaine manière, c'est pareil pour l'indulgence. L'indulgence, c'est entouré de choses qui nous plaisent pas bien, mais au total, si on arrive à passer ce qui nous déplaît pas, qui plaît pas trop à notre, je dis peut-être notre sensibilité contemporaine, eh bien, on trouve quelque chose d'important. Eh bien, donc, je termine, prenant un grand détour, etc., etc., je termine là-dessus. Donc, vous voyez, vous avez de multiples récits de ces processions. Et je dirais, limite, il y aurait de quoi faire un recueil de ces récits de pèlerinage. Alors, ai-je tout dit ? Je vous ai mis sur votre quelques reproductions. Il n'y en a pas des masses, mais ceux qui en voudraient, je les scannais. Là, vous avez un autre ouvrage, qui est en latin, mais je vous l'ai mis surtout à cause du frontispice qui est à gauche. C'est écrit par un récollet, je crois. Et ce frontispice vous représente, là encore, c'est typique, hein, vous avez le miracle des roses, vous avez la Vierge qui apparaît, le Christ à côté, et François qui est agenouillé. Vous avez une espèce de vous avez un type manifestement iconographique qui se répand et qui est très courant au XVIIe et XVIIIe siècle. Alors, je termine là, simplement peut-être pour vous dire vous rappeler peut-être ma conviction. Moi, il y a peut-être une date que j'ai oublié de donner, qui est importante, hein, c'est celle du 16 avril 1921, où vous avez le pape Benoît XV, hein, qui lui a donné un bref décisif. Enfin, l'Église s'est prononcée. Hein, je l'ai photocopié, d'ailleurs, si quelquefois que quelqu'un s'intéresse. Il reprend toute l'histoire, il reprend ce qu'a écrit Théobald, hein, il reprend tout, et il dit maintenant, il aurait besoin d'une traduction, mais il dit en gros, c'est sérieux, à partir de 1921, on n'a plus aucune crainte à avoir, et théoriquement, il ne devrait plus y avoir de détracteurs, et j'espère qu'il n'y en aura pas dans cette salle, de détracteurs de l'indulgence. Voilà, moi je pense que c'est quelque chose qui correspond bien à l'état d'esprit de François, à ce je vous veux tous au paradis, me convient parfaitement. Voilà, je vous remercie. Encore une fois, c'était très bon.
Ou même apporter des témoignages les uns des autres. J'ai simplement oublié tout à l'heure de mentionner que 1921, bon, le pape, comment il s'appelle ?
Benoît XV.
Benoît XV a confirmé la portion occulte. Enfin, il faut reconnaître que le pape François à nous, il a quand même vraiment confirmé aussi la portion occulte, parce qu'il est allé lui-même le 4 août, alors il fait pas, parce que c'est l'année à mi-record, c'est peut-être étendu, plus que le 2 août. Il est le 4 août lui-même profiter pour lui-même de l'indulgence de la portion occulte qui avait été accordé par son lointain prédécesseur, Honorius III. Il est venu spécialement. Alors j'aurais voulu, vous le verrez si vous cherchez, il y a une émission de KTO en direct, où il y a du 4 août, qui montre l'arrivée du pape François à la portion occulte, qui fait ses dévotions dans la chapelle, qui a été pris pour lui et pour son
pontificat. Oui, qui fait les gestes humbles et de tout pèlerin, quoi. Moi, ça me touche beaucoup, le fait que notre pape François. Je rappelle aussi que ce qui était inscrit, et là je vous laisse la parole parce qu'il y a certainement des choses à dire, au-dessus de la porte de la chapelle de la Porte sans cul, hein, à Aec est la porte ici, c'est tout simplement. Voilà, c'est ça, voilà, sans complexe de la part des franciscains, je veux dire, c'est la porte, notre petite porte, c'est la porte de la vie éternelle. Ouais. Moi, ça ne me déplaît pas du tout, je trouve ça très. Mais c'est, encore une fois, c'est le culot qu'avait François. Qu'est-ce qu'il y a, frère ?
C'est normal.
Oui.
Oh,
oui, c'est sûr. Allez, dites-moi s'il y a des questions, et moi je ne pourrais pas forcément répondre, mais je sais qu'il y a Jean-Baptiste Auberger qui est là, il y a Nicole Berriou, il y a Luc Mathieu, qui peuvent peut-être davantage nous éclairer, et je les remercie d'être là ce soir, et j'ai beaucoup de honte à parler devant eux. Oh. Mais si, je veux dire. Bon, alors Luc, Mathieu, qu'est-ce que...
D'abord, je pense que Benoît XV, lorsqu'il a confirmé, il savait très bien que ça avait déjà été confirmé par d'autres sauveurs accomplis.
Bon, d'accord, oui.
Oui, parce que si mes souvenirs sont bons, Sixte IV
à la demande des frères mineurs, précisément pour faire cesser les querelles, a dit, bon, même si ça n'a pas été fait avant, maintenant je le promulgue. Donc je crois que
N'empêche que Benoît XV s'est cru obligé de refaire quelque chose de solennel. Alors, encore une fois, je vous dis, il y a tout le testament de Théobald qui est repris, avec la discussion. Avec toute la discussion, le pape qui dit tu en demandes beaucoup, etc. On le trouve très facilement dans le texte latin.
Non, la deuxième chose, dans les années 1990, par là, donc c'est tout récent, ouais. Il y a donc un père conventuel qui a fait une étude historique pour montrer qu'elle n'avait pas eu lieu, cette indulgence. Que, bien sûr, maintenant, puisque les papes l'avaient approuvée, elle existait, mais alors il explique tout ce que tu as dit tout à l'heure. Le pape Grégoire IX ayant accordé une indulgence
au Sacro Covento,
les frères observants, dit-il, qui étaient à la portion cul, ont voulu exciper d'une tradition qui n'était que mal fondée. Mais il y a aussi un témoignage que tu n'as pas cité, mais qui me semble important, c'est celui de Hubertin Casal. Hubertin Casal raconte un peu sa conversion pour être frère mineur. Il dit qu'elle est allée auprès de la voyante
Angèle de Foligno, oui, c'est ça.
Et que c'est Angèle de Foligno qui lui a raconté l'indulgence de la prostituée. Donc c'est un texte aussi qui est quand même tout à fait au début du 14e.
Ouais, c'est ça. Au début du 14e, on apprend qu'il y a une espèce de faisceau de témoignages à ce niveau-là, de gens qui en parlent.
Une dernière chose, tu as montré un petit livre qui relie plusieurs petits...
Plein de petits fascicules, oui.
Ouais. Alors, ça se comprend très bien parce que lorsque les franciscains sont revenus, les capucins d'abord, et les franciscains après, autour des années 1850, ouais. Ces frères arrivaient dans une chrétienté qui était très peu catéchisée et ils n'avaient pas de charge pastorale. Et alors, le premier souci des capucins et des franciscains quelques années après, ça a été de remettre en valeur quelques dévotions très simples. Hein, essentiellement, Saint Antoine de Padoue, c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu une statue dans toutes les églises, le chemin de croix, et puis l'indulgence à la portion de c'est au XIXe siècle, vers 1850-70, hein, voilà, que toutes les églises se sont intéressées à ces... Et ça, c'est sous l'influence des capucins qui étaient revenus donc, au milieu du XIXe siècle, et des franciscains, il fallait qu'ils trouvent un lieu de...
Mais ceux-là,
ils n'avaient pas encore de paroisse, ouais. Ils n'avaient pas encore de tradition pastorale, ils l'avaient perdu, et puis le peuple chrétien les avait un peu oubliés. Et donc, ils vont se rendre populaires par ça.
Cela dit, les ouvrages, en revanche, que j'ai mentionnés, datent tous soit du XVIIe, soit du XVIIIe. C'est-à-dire qu'au XVIIe et au XVIIIe, les frères écrivent sur la question.
Ce que je veux simplement dire, c'est...
Ah oui, l'explication de la multiplicité des petits fascicules.
Des petits fascicules, bien sûr. Dans les paroisses. Oui, c'est sûr. Hein, on rétablit cette diersorde, et puis on donnait aux tertiaires de la nourriture.
Bien sûr, bien sûr.
La principale dévotion franciscaine, dont les indulgences
Et puis après, on donnera la parole à la Bretagne et à Robert Tetrel, hein, parce qu'on va parler de Notre-Dame des Anges. Mais s'il y a d'autres questions, là, ou observations, ou critiques, ou tout ce que vous voulez.
Je crois que...
Oui, Chantal, oui.
Je crois que le pape François, effectivement, est bien dans le souffle de Saint François, parce que quand on voit l'émission de son passage à la portion cul, on voit à un moment, c'est vraiment, il est à côté de la petite chapelle, il est sur le côté de la petite chapelle, ouais. Et d'un seul coup, il change son chemin, il tourne à gauche et il fonce dans un confessionnal. Il fonce dans un confessionnal, là, il reste un moment. Ouais. Et après, on a le témoignage d'un frère qui s'est de là-bas, là, qui racontait que. Il a donné un message où on pourrait le retrouver, mais alors il a demandé à tous les évêques et cardinaux qui étaient là qu'ils aillent tous se confesser. Mais c'est le même élan, on trouve le même élan du pape François que François qui a voulu que tout le monde aille au paradis. C'est quand même frappant cette année de la miséricorde.
Je crois que c'est au niveau de l'iconographie très contemporaine, est-ce que ce n'est pas le premier pape que l'on voit se confesser? Pas seulement confesser, mais se confesser.
Ah ben oui.
Non ? Hein, c'est ça, hein,
ce...
ouais.
Ouais.
D'autres observations, remarques ou des choses qu'on peut ajouter ou...
Monsieur Alimini, je vais vous passer quelque
chose. Il y a Nicole, et puis après Jean-François. Mais Nicole, allez-y. Eh, vas-y.
Ça n'est pas tout à fait sur la portion occulte, mais c'est sur la miséricorde. Je me rappelle avoir lu dans un texte du XIIIe siècle, c'est un sermon, mais ça ne t'étonnera pas. C'est un sermon qui a été fait par un cardinal français qui est allé à l'église de la portion occulte. Il était en Italie à ce moment-là, à une époque où il n'y avait pas de pape, et il avait un très grand rôle dans l'église, quasiment de substitut en l'absence du pape pour gouverner l'église. Et il était là devant les frères franciscains un jour où on lisait dans l'église de ce temps l'évangile du Samaritain. Bon Samaritain. Et il commente cet évangile en disant « Je vais vous parler de François. François, c'est le bon Samaritain. Non pas parce qu'il a d'abord eu de la miséricorde pour le monde entier, mais parce qu'il a eu de la miséricorde à l'égard de lui-même. Et qu'en réalité, il s'est rendu compte qu'il était malade, blessé, malheureux, et il a commencé par se guérir lui-même, guérir son corps et son âme en réalité, et après il est devenu le bon samaritain du monde entier. Donc il y avait quand même cette image de la miséricorde qui circulait, je dirais, dans la société en dehors de l'ordre des fleurs humaines, et qui faisait qu'un grand cardinal qui parlait comme ça, qui était un grand savant, il a fait des études de théologie à Paris, et bien disait, François, c'est le samaritain pour lui et pour les autres. Et vous qui êtes ses héritiers, vous devez vraiment vous souvenir de ça et faire de même.
C'est un beau témoignage. Il a été édité, ce sermon ?
Il vient d'être republié par le père Fortunato Iozzi. J'ai vu ça, oui. Il y a quelques jours.
D'accord.
Et donc,
il est peut-être là-dedans, alors, parce que justement, Iozzelli y a participé à ce catalogue.
D'accord. En tout cas, c'est un texte qui vient d'être là republié. En latin, forcément.
Oui, d'accord, d'accord.
Ouais. Ah, encore un. Voilà.
Merci, Nicole.
Un petit complément.
On donne la parole à. Peut-être Robert, vous vouliez parler, Jean-François ?
Non. Juste passer quelque chose.
Oui, d'accord. Et puis après, si Robert Tetrel va nous parler de Notre-Dame des Anges, de quelques minutes, de Notre-Dame des Anges de Bretagne, de la Berbrac, un beau lieu. Voilà, et on est lié. Ça montre un peu ce que fait notre association des amis de la bibliothèque. On a collaboré il y a quelques années avec Robert Tetrel. Hein, il y avait eu quelque chose, et puis Robert Tetrel reste en contact avec nous. Voilà, c'est ça la vie de la bibliothèque. Voilà. Et en même temps.
Je vous passe juste quelques photos du 2 août 2009.
Voilà, puis après.
Puis après, c'est juste puisqu'on a tout petit peu de temps.
Quelle heure il est ? J'ai pas de montre. Quelle heure il est ? Je ne m'en rends pas compte.
7 à moi, là.
D'accord.
8 à moi, là.
D'accord.
Voilà, donc on est au 2 août 2009. J'ai eu l'occasion d'y être cette fois-ci. Donc c'est là, ce que je dis, il y a pendant une semaine, il y a des tas de groupes qui ont sillonné l'Ombrie, peut-être même eu la Lombardie aussi, pour arriver le 2 août, enfin la veille, comme a dit Pierre, la veille, pas le 2 août, le 1er août, pour coucher un peu n'importe où d'ailleurs. Donc voilà ce que ça donne comme expérience. Voilà, vous voyez, c'est quelque chose d'où. Alors évidemment, il y a la fresque qui est en tapisserie, qui est sur le mur de la basilique.
Vous voyez les évêques d'Ombrie là, qui sont à gauche là. Vous voyez François, et c'est très intéressant au niveau de l'iconographie, c'est très intéressant quant à aux constructions qui ont pu être faites autour de la petite chapelle de la portion cul, hein. C'est qu'on voit qu'il y a on commence à construire des bâtiments et tout. Qu'allaient faire les frères avec cette portion cul et puis les petits bâtiments qui sont autour, hein. C'est très intéressant de ce point de vue là aussi.
Alors il a ici le petit
Vous voyez la portion cul, elle est là, la petite chapelle est là. Hein. Voilà. Ça, la chapelle est là, François est là, il a son papier là.
Papier, oui, mais
voilà. Et puis les évêques d'Ombrie qui sont là.
Alors, voilà l'arrivée des groupes les uns après les autres, c'est très spectaculaire.
Ils rentrent dans la
basilique. Oui, là on est à l'intérieur de la grande basilique. Là. J'ai pris la photo de l'intérieur. Voilà, vous voyez, il y en a tout plein qui arrivent. Et c'est à 2 août 2009, c'est donc cette année, j'y étais pas, ça devait être encore un autre groupe. Alors vous voyez, tous les. Le premier rangé, c'est des capucins, c'est des frères, non pas des capucins, enfin des frères mineurs. Quoi. Bon, alors là, après ils arrivent dans la basilique, dans la petite chapelle. Puis alors ici, ben, je crois que c'est là. Vous voyez, la fresque.
Oui, à gauche, là. À gauche de l'Annonciation.
Voilà.
Je rappelle que cette basilique Notre-Dame des Anges, l'ensemble, c'est une basilique papale. Exactement comme Saint-François d'Assise est aussi une basilique papale. Hein. C'est ce qui vous explique cette espèce de grande façade avec ce grand balcon, parce que c'est officiellement un balcon pour que le pape puisse bénir. C'est une espèce de loggia, quoi, je veux dire.
Voilà. J'ajouterais que, comme témoignage, qu'on a été très émus parce que je ne suis jamais allée à l'arrivée à Saint-Jacques de Compostelle, mais ça relève un petit peu de ça, parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment fatiguées, qui arrivent, il y en a de tous âges. Il y a les frères bras dessus, bras dessous, ils sont par 10-20 en large, et qui rentrent dans la... Alors il y a une joie, ils sont épuisés, ils se soutiennent les uns les autres, et il y a une joie, c'est extraordinaire. On sent que c'est vraiment un événement spirituel pour chacun.
Alors, on passe maintenant à Notre-Dame des Anges, près de la Bergerac, au bord de la mer, un lieu absolument superbe, avec un couvent qui existe en grande partie, et en particulier une église superbe, une des plus belles églises d'ordre mendiant de l'ouest de la France. Malheureusement, actuellement, il n'y a plus le toit, mais vous allez nous dire quelque chose. Le toit est en train d'être remonté. Alors, allez-y.
Merci de me recevoir. Oui, je vais vous parler de Notre-Dame des Anges, qui est une maison de l'observance tout au bout de la Bretagne, face à la mer, derrière l'île de la Vierge, et qui est là depuis 500 ans, un peu plus maintenant, consécration en 1509, et qui est là dans ces murs de l'époque. Je ne dis pas que quelques pierres n'ont pas été remontées par-ci, par-là. La tempête renversant ses murs de temps en temps, et qui est resté dans son entité, même si quelques bâtiments sont tombés au XIXe siècle par un manque d'usage, et qui aujourd'hui se remonte petit à petit, et où l'association des amis, alors on dit dans le pays l'abbaye des anges, je m'en excuse, c'est une faute historique, mais l'attachement des populations, la qualité du lieu, fait qu'ils ont naturellement donné ce mot d'abbaye plus prestigieux pour caractériser cette ancienne maison. Nous sommes à la Bergerac, c'est une région au nord de Brest, où les rivières sont à chaque marée envahies par la mer. C'est pour ça qu'on dit Aber, qui est le mot breton. On dirait dans d'autres pays des fjords ou des rions. Abervrac, Vrac, c'est un nom, c'est la sorcière qui évidemment emmenait les marins outre-tombe très souvent dans les grandes tempêtes que nous connaissons toujours encore aujourd'hui. C'est pour moi également une propriété de famille que nous avons trouvée, qui est dans la famille depuis 150 ans, et qui, par un hasard tortueux, nous est retombée, ma femme et moi, dans nos mains, il y a 16 ans, et nous avons décidé de prendre la suite, et petit à petit, de restituer cette ancienne maison, dans non pas son entité, mais restituer ce qu'il reste, et notamment la chapelle. Alors la chapelle, elle fait 120 pieds de long, c'est-à-dire 40 mètres, elle est très caractéristique de l'évolution de l'ordre, puisque au XVIIe siècle, les cordeliers de la stricte observance ont fait place aux récollets, et qu'à l'occasion d'un incendie à la fin du XVIIe siècle, la chapelle a été reconstruite et coupée en deux pour faire un chœur de récollection pour les récollets, laissant la partie avant à la disposition du public pour les grandes cérémonies. C'est une région où, jusqu'à une époque encore récente, on parlait breton, et nos frères cordeliers et récollets pratiquaient les trois langues, le breton, évidemment, le latin. C'était un site assez intellectuel. Il y avait 1200 livres dans la bibliothèque en 1792, lorsque Notre-Dame-des-Anges a été vendue comme bien national. Et malheureusement, ils ont disparu à Brest, dans trois charrettes. Mais un bon curé de l'environ de Plouvien a retrouvé un évangile avec l'Ex Nihilo de Notre-Dame-des-Anges qui est exposé au petit musée du Folquet, qui est notre basilique, juste à côté. Si vous passez par là, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. C'est ouvert pratiquement en permanence, car il y a des travaux. Et je vous terminerai en vous donnant quelques petits détails sur ces travaux qui avancent. Nous avons eu la chance d'être filmés par FR3 des Racines et des Ailes cet été, qui a filmé une partie du montage de la charpente et le début de la couverture, qui a montré la sculpture des sablières qui a été offerte par un ami de l'association. C'est quand même une œuvre exceptionnelle. Il y a 14 poutres, chacune de 6 mètres, entièrement sculptées, œuvre d'un artiste et d'un ébéniste encore ici, et qui a, sur le thème du jardin de Saint-François, sculpté d'un côté le jardin de la mer et d'autre côté le jardin sur terre. Alors, on en est au stade où finalement, bientôt, l'ensemble va être fermé, c'est-à-dire que la couverture va être faite. Des vitres provisoires ont été installées pour empêcher les vents de tempête de s'engouffrer et de faire bouger tout ça. Et nous arrivons aux finitions et espérons que le 2 août 2018, on pourra inaugurer ce site. Vous êtes les bienvenus. On fera une répétition de ce que nous avons déjà fait en 2012, où Pierre Moracchini nous a fait une brillante conférence, et où il y avait eu une grande messe dite, avec un pardon, et tout le village. 2 août 2018. Alors, je ne suis pas sûr d'en tenir cette date. L'association avec nous aussi travaille, mais finalement, plus on avance, plus c'est compliqué. On ne se rend pas compte, mais... Finalement, monter des murs, c'est un peu compliqué, mais monter une charpente, c'est encore un petit peu plus compliqué, mais enfin, c'est encore des choses assez simples. Et... Alors, quand on s'attaque aux vitraux, aux poteries, alors nous avons la chance d'avoir environ 110 pots acoustiques. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que sinon, je vais en parler pendant 2 heures. Enfin, disons simplement que ce sont des réceptacles qui sont dans les murs et qui sont des résonateurs naturels. Et donc, quand la parole ou le chant vient frapper sur le mur, la sélectivité du pot fait que il réémet, en tout cas, certains sons. Et donc, en fait, c'est une technique très ancienne qui permet d'améliorer l'acoustique du lieu. Alors, évidemment, l'acoustique est détruite parce que au 17e, comme je vous l'ai dit, on a mis un mur au milieu. Enfin, il y a une équipe brillante de chercheurs de Poitiers qui travaille sur ce sujet, qui va nous mettre un beau rapport. Donc, on va refaire les pots. Bon, il faut trouver quel vitraux on va faire. Et puis, l'éclairage. Alors là, ça devient délicat. Et enfin, l'acoustique. L'acoustique est un problème important, puisque pour l'association, cette donc, chapelle va devenir un centre culturel, ouvert à l'année au public. Centre culturel qui est dédié à la voix et la parole. Alors qui fait le lien entre le passé, le présent, et j'espère le futur. Le passé, ben, nos frères étaient là pour prêcher la parole de Dieu et chanter sa gloire. Le présent, il y a quelques petites soirées musicales qui se développent. C'est plein tous les vendredis soirs, des mois d'août et de juillet. Et demain, la parole et la voix, donc autour de la musique, du chant et des conférences. N'hésitez pas à passer à la Berbrac. Si vous passez dans ce coin, c'est très loin. Il faut 6 heures de route pratiquement. Mais c'est très beau. Et je serai heureux, avec toute l'association, de vous accueillir. Alors, j'ai pris la parole pour vous dire également que l'association avait publié un petit livre qui s'appelle « L'abbaye des anges, 5 siècles à la Berbrac ». J'en ai quelques exemplaires sur moi. Maintenant, la bibliothèque a un exemplaire. Voilà, si vous voulez avoir des détails. Ce n'est pas un bouquin très universitaire. C'est pour simplement une présentation, une découverte. Et il y a de belles images. C'est assez bien fait. J'ai fait ça avec le président de l'association, un très bon ami qui a beaucoup contribué, mais malheureusement qui est mort aujourd'hui, à qui nous avons en partie dédié ce livre, ainsi qu'au père Jaouen, qui est le guide spirituel de notre coin. Père Jaouen, si vous ne le connaissez pas, c'est le bel espoir, c'est l'émission pour les prisons et les drogués. Et puis le quatrième, c'est le correspondant du Télégramme, qui est le journal du pays. Voilà. Merci à vous. J'étais un peu long, excusez-moi.